Vous écoutez, on lit pour vous.
Une école a failli à protéger une ado victime de porno juvénile généré par l'IA. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir. La protectrice de l'élève tape sur les doigts d'une école secondaire privée de la rive sud de Montréal, le Collège Saint-Hilaire, pour avoir failli à ses obligations dans un cas de création et de partage de matériel pornographique créé à partir de l'intelligence artificielle mettant en scène une élève. En mai 2025, les parents de Sarah, nous utilisons ici un nom fictif pour respecter sa confidentialité, ont reçu un appel de l'école les informant qu'une image à caractère sexuel de leur fille de 13 ans avait été partagée à partir d'un compte anonyme. L'école avait alors contacté les policiers et déployé la trousse Sexto, un outil à la disposition des écoles pour intervenir en cas de partage d'images à caractère sexuel. Sur le coup, on s'est dit « Waouh, l'école a vraiment réagi rapidement », raconte la mère de Sarah, qui avoue avoir été un peu paniquée à l'idée que de fausses images de sa fille soient en circulation. Au cours de l'été 2025, la police a réussi à identifier le jeune qui serait à l'origine de cette image pornographique trafiquée. Il s'agissait d'un élève fréquentant l'école de Sarah et a fourni son nom aux parents. Depuis le 3 novembre 2025, le dossier est sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera si des accusations seront portées. À la rentrée scolaire, les parents ont avisé la direction du collège Saint-Hilaire de l'identité du jeune et réclamé son renvoi. La rencontre s'est avérée désagréable et infructueuse, déplore la mère de Sarah. On est tombé des nues. L'école disait « on ne peut rien faire en raison de l'enquête ». Et ce, même si la victime avait contacté l'auteur allégué des gestes et obtenu des aveux de sa part. Des manquements. Les parents se sont tournés vers la protectrice régionale de l'élève, qui a relevé plusieurs manquements. Au départ, le collège a géré de façon adéquate et diligente, constate Caroline Gervais dans ses conclusions publiées en octobre 2025. Cependant, lors de la rentrée scolaire 2025-2026, l'école n'a pas respecté son obligation d'intervenir auprès de l'auteur allégué et de ses parents. Selon elle, dès qu'il a été avisé de l'identité de l'auteur allégué, l'établissement scolaire se devait d'intervenir sans délai auprès de cet élève. Or, aucune action n'a été déployée auprès de celui-ci, constate Mme Gervais. Dans une réponse envoyée à la protectrice de l'élève, que la direction a partagée avec Le Devoir, l'école indique avoir consulté plusieurs instances, dont la police et la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui lui ont fortement recommandé de ne pas intervenir directement auprès des parents de l'élève concerné, et ce, afin de ne pas compromettre l'enquête policière en cours. Or, il s'agit d'informations erronées, selon la protectrice de l'élève. Une enquête policière ne relève pas l'établissement scolaire de ses obligations, écrit-elle dans son rapport. Le rôle de l'école ne consiste pas à prouver la culpabilité de l'élève mis en cause, mais d'assurer la gestion de la situation afin d'offrir un milieu sain et sécuritaire à tous ses élèves, exempt d'intimidation ou de violence. Le refus de l'établissement de rencontrer l'auteur présumé a d'ailleurs eu des conséquences négatives sur la victime, estime la protectrice régionale de l'élève. À la rentrée scolaire 2025-2026, Sarah est perturbée lorsqu'elle croise l'auteur allégué et exprime son malaise à être en sa présence. Or, son bien-être, sa sécurité et son sentiment de sécurité doivent être au centre des préoccupations de l'établissement scolaire, écrit Mme Gervais. Bien que certaines mesures de protection aient pu être mises en place, l'école était limitée, après l'absence de démarches réalisées auprès de l'auteur allégué et de ses parents. Des mesures de distanciation auraient dû être ajoutées. La protectrice de l'élève ne se prononce pas sur les sanctions à imposer à l'adolescent, indiquant que c'est un choix qui appartient à la direction. Elle précise que dans tous les cas, si des mesures spécifiques devaient être appliquées, l'école ne peut en faire part aux parents de la victime pour des raisons de confidentialité. Mesures de distanciation. Sur recommandation de la protectrice régionale de l'élève, la direction a finalement rencontré l'auteur allégué et ses parents. Les parents de Sarah ont ensuite été avisés que des mesures de distanciation seraient mises en place pour éviter que les deux jeunes ne se croisent à l'école, mais que l'adolescent ne serait pas renvoyé. On parle d'un établissement privé qui se permet de mettre des élèves dehors sous peine de résultats scolaires insuffisants ou de suspendre des élèves pour vapotage. Mais là, un geste commis à l'égard d'un autre élève classé par la justice comme un geste de pornographie juvénile jugé criminel, ça, il n'y aura pas de renvoi, s'indigne la mère de Sarah. Elle aurait aimé que l'école envoie un message fort pour dire que ce type de comportement n'est pas toléré. Ma crainte, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il va y en avoir d'autres, des contenus comme ça. Et le message qu'on envoie à ce jeune et aux autres, c'est que ce n'est pas considéré comme grave au sein de l'école. La direction de l'école a refusé la demande d'entrevue du devoir pour des raisons de confidentialité et pour éviter d'interférer dans une enquête policière toujours en cours, indiquant dans un courriel prendre cette affaire très au sérieux et collaborer avec les autorités compétentes. Elle ajoute suivre les recommandations de la protectrice de l'élève. Bien que celle-ci indique clairement que la gestion de l'événement doit se faire indépendamment de l'enquête des services policiers, la direction continue d'y faire référence, indiquant au devoir que son établissement se gouvernera en fonction de leurs conclusions. Au cabinet de la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, on refuse de commenter cette situation spécifique. Toutefois, les milieux scolaires doivent assumer pleinement leurs responsabilités pour contrer la violence et l'intimidation, indique le cabinet. C'est précisément la raison d'être du protecteur national de l'élève que nous avons mis en place. Les directions d'établissement doivent tout mettre en œuvre pour appliquer les recommandations qui leur sont adressées. C'était « Une école a failli à protéger une ado victime de porno juvénile générée par l'IA ». Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir.
Des groupes mobilisés derrière la conscription, un texte de Caroline Damour, paru le 18 octobre 2025 dans Le Devoir. L'autrice est professeure adjointe au département d'histoire du Collège militaire royal du Canada. L'imaginaire québécois présente souvent le Canadien français comme une victime des guerres mondiales. Le 18 octobre 1940, deux hebdomadaires rimousquois présentent en première page la bénédiction par l'évêque de Rimouski du camp 55, le centre d'instruction militaire obligatoire pour la défense du territoire national. Employant un ton bienveillant, les articles récapitulent les moments forts de la cérémonie. Le récit favorable de la cérémonie de bénédiction du camp proposé par les deux hebdomadaires et la participation active des élites locales à l'événement contraste avec l'image répandue dans la mémoire collective centrée sur le refus de la conscription pendant la Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Plusieurs auteurs remarquent en effet que l'imaginaire québécois présente souvent le Canadien français comme une victime des guerres mondiales, un perdant dans son propre pays, où la majorité canadienne-anglaise lui impose la conscription pour une guerre lointaine qui, au fond, ne le concerne pas. À l'exception de leur résistance à l'égard de la conscription, les Canadiens français joueraient somme toute un rôle plutôt passif dans ce conflit. Cet état de fait est probablement dû à la perspective historique dominante de la Seconde Guerre mondiale au Canada, qui laisse entendre que le gouvernement fédéral joue un rôle de premier plan dans la mobilisation de la société pour l'effort de guerre nationale grâce à l'expansion progressive de son appareil étatique. Or, cette perspective ne tient pas compte de la structure administrative décentralisée des nombreuses initiatives mises en place pour la victoire. En effet, la nature de l'effort de guerre sur le front intérieur est déterminée en grande partie par la réponse à l'appel du devoir des citoyens évoluant à l'extérieur de la bureaucratie fédérale. Mobilisation. Au printemps 1940, la gravité de la situation militaire en Europe pousse le premier ministre canadien Mackenzie King à adopter la loi sur la mobilisation des ressources nationales qui permet notamment la conscription pour le territoire national. Parmi les 14 centres de formation prévus pour le Québec, on annonce donc, au mois d'août, la construction du centre d'instruction numéro 55, mieux connu sous le nom de camp 55 à l'époque, pouvant accueillir 500 recrues à Rimouski dès le mois d'octobre suivant. Dès lors, la mise en place du camp 55 et la tenue de ses activités de 1940 à 1943 sont le produit du travail de ce que l'on pourrait appeler une organisation de mobilisation. Ce regroupement informel de groupes et d'individus issus du milieu militaire et de la société civile est en grande partie responsable de la mobilisation de la population rimousquoise en faveur du centre d'instruction élémentaire. En effet, la création et la gestion d'un centre d'entraînement militaire demandent plus que du personnel compétent et le matériel nécessaire pour mener à bien la formation. Il faut également s'assurer du bien-être physique et moral des jeunes conscrits. De 1940 à 1943, l'élite locale et régionale constitue donc le véritable moteur à l'origine de la mise en place de la conscription. Adhésion. le degré d'adhésion de la communauté rimouskoise à l'effort de guerre est le résultat de l'engagement non seulement d'éminents personnages québécois comme Sir Eugène Fizet ou Jules A. Briand, mais aussi d'élus municipaux, d'hommes d'affaires, de membres du clergé et d'autres figures de proue locales. Ces derniers mobilisent leur réseau de relations et recrutent des organisateurs au profit des activités pour l'effort de guerre, conjointement avec les membres des clubs locaux et des groupes communautaires comme les Chevaliers de Colomb. La force et la vitalité du tissu associatif rendent donc les politiques nationales efficaces au niveau local. En somme, si la politique de décentralisation du gouvernement fédéral veut rallier les Canadiens et les Canadiens français en particulier, derrière un effort de guerre vraiment national, il semble que l'élite locale et régionale constitue le véritable moteur à l'origine de la mise en place de la conscription à Rimouski de 1940 à 1943. Plusieurs motifs semblent inciter les élites locales à s'impliquer pour la création et la bonne marche du camp 55. Que ce soit pour des raisons considérées nobles, la défense du Canada, des intentions moralistes, le contrôle moral des jeunes hommes et les bienfaits de la culture militaire, ou pour des visées de nature plus prosaïque, les répercussions économiques qu'ils représentent pour la région, il reste que les notables rimouskois fusionnent l'intérêt personnel de chacun avec le bien commun et constituent des organisations intermédiaires qui servent de lien entre l'État canadien et la population rimouskoise. Ils constituent des vecteurs de mobilisation puissants en faveur de l'effort de guerre national tout au long de la Seconde Guerre mondiale. C'était des groupes mobilisés derrière la conscription. Un texte de Caroline Damour, paru le 18 octobre 2025 dans Le Devoir.
Les Canadiens manquent des recommandations nationales d'activité physique. Un texte de Jonathan Sema, SEMAH, publié le 19 novembre 2025 dans La Liberté. Participation a publié le 19 novembre dernier son bulletin 2025 de l'activité physique chez les adultes. L'inactivité physique coûte également 3,9 milliards par an au système de santé canadien. Citation: vous rajoutez à ça un 15 milliards de pertes de productivité. Ça, c'est une nouvelle analyse qui a été faite récemment. Fin de citation, précise le Dr Jean-Philippe Chaput, membre du comité de recherche du bulletin 2025. Citation, ça montre quand même des coûts assez astronomiques de ne pas bouger. Et bouger tous les jours, c'est l'une des meilleures pilules pour notre santé physique, santé mentale, et puis ça prévient des maladies chroniques à long terme. Indique également le Dr Jean-Philippe Chaput. Inertie collective. D'autres chiffres font état de cette inertie collective. Seulement 27 % des adultes ont déclaré avoir participé à une activité sportive au cours des 12 derniers mois. 35 % des adultes ont déclaré pratiquer des activités de renforcement musculaire, sollicitant les principaux groupes musculaires au moins deux fois par semaine, tel que recommandé. Seulement 42 % des adultes respectent la recommandation de limiter leur temps sédentaire à 8 heures ou moins par jour. Un faible niveau d'activité physique est associé à un risque accru de maladies chroniques, d'anxiété, de dépression et de décès prématurés, rappelle le bulletin 2025. Le Dr Jean-Philippe Chaput, qui est aussi professeur titulaire au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, fait état d'un autre résultat qui l'interpelle, le nombre de pas par jour. Citation, ça a diminué aussi dans les dernières années, quand même beaucoup, lance-t-il. En effet, selon les données du bulletin 2025, seulement 32 % des adultes de 18 à 79 ans vivant au Canada font au moins 7500 pas par jour, ce qui est considéré comme un mode de vie actif. En 2021, lors de la première mesure participation, 49 % des adultes faisaient le nombre de pas recommandés. Citation: la pandémie a changé les choses. Il y a plus de gens en télétravail, on fait moins de pas, on prend moins de transports actifs, on ne se déplace pas au bureau, avance le docteur Jean-Philippe Chaput comme l'une des explications. L'importance de bouger. Comme l'explique le docteur Jean-Philippe Chaput, chaque mouvement compte. L'idée est de progresser pour tendre vers la barre des 7500 pas. Citation: une personne qui bouge 1000 pas par jour, qui se mène à bouger 2000, elle est encore beaucoup en dessous de cette barre-là, mais elle va avoir des bienfaits substantiels pour sa santé. Et les plus grands bienfaits sont au début. Quelqu'un qui en bouge zéro, qui se met à en bouger 1000, c'est exponentiel. Fin de citation. Le docteur Jean-Philippe Chaput est également chercheur au sein du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité de l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. L'éducation est peut-être une solution à cet enjeu. Commencer jeune à prendre de bonnes habitudes peut permettre d'inverser la situation. Mais le docteur Jean-Philippe Chaput insiste, citation: « Il n'y a pas de mauvais moment pour mieux faire. » Une personne qui n'a pas bougé pour sa vie complète, qui se met à bouger à 60 ans, il va avoir des bienfaits pour sa santé. Mais lorsqu'on commence tôt et qu'on a une base, on sait comment lancer, botter et autres, donc on a un contrôle moteur adéquat et l'on a moins peur de faire du sport ou de s'impliquer dans des activités sportives. Fin de citation. Le bulletin 2025 souligne l'importance de faire de l'activité physique une priorité nationale. Selon Participe Action, les investissements des différents ordres de gouvernement sont essentiels. Priorité nationale. Le rapport de l'organisme explique d'ailleurs que seulement 22 % des municipalités de plus de 1000 habitants disposent d'une stratégie officielle pour le sport et l'activité physique. Citation: c'est aménager notre environnement pour que ça devienne plus facile à plusieurs égards. Je pense que les gens aiment une certaine flexibilité. Il n'y a pas une personne qui aime bouger de la même façon. Il y a des gens qui aiment ça avec des activités en groupe parce qu'il y a un aspect social à ça. D'autres aiment ça bouger seul chez eux. D'autres aiment marcher. D'autres aiment jardiner, danser. Il n'y a pas de meilleure activité. On a souvent vendu l'activité physique comme on doit aller au gym. On doit suer pour être en bonne santé, ce qui est complètement faux. Chaque mouvement compte. Mais choisissez les activités que vous aimez. D'un point de vue municipal ou de gouvernement, il peut y avoir plusieurs options. Il y a des activités en ligne, les gens peuvent aller en groupe. Plus l'offre est grande, plus on va répondre à la demande aussi. Mais si on a accès à tout, possiblement qu'il y ait quelque chose qui va nous tenter. Fin de citation, fait remarquer le docteur Jean-Philippe Chaput. C'était « Les Canadiens manquent les recommandations nationales d'activité physique », un texte de Jonathan Sema, publié le 19 novembre 2025 dans « La Liberté ».
La corruptibilité des intelligences artificielles. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse. Flanqué de son intelligence artificielle, Google a retrouvé une petite noblesse fonctionnelle. Je parle ici uniquement de la partie intégrée au moteur de recherche pour nous aider à trouver des informations, mode IA. Vous cherchez des endroits où trouver de la nourriture à emporter à Baie-Saint-Paul? Il vous fera un petit résumé et vous donnera une liste des meilleurs endroits avec une certaine honnêteté. Ceux qui ont vu arriver ce moteur de recherche dans nos vies y retrouveront une forme de pureté qui rappelle ses premières années, lorsqu'il était moins corrompu par l'argent. Mais comme le capitalisme numérique est aussi une histoire de gros profits, Google a fini par devenir un énorme tas d'informations où ceux qui lui rapportent le plus d'argent sont favorisés. Vous cherchez un hôtel où loger? Et les sites de réservation apparaissent largement en tête de vos résultats. Parfois, les sites des hôtels sont introuvables, sous cette grosse masse d'informations inextricables. Les petites places agréables, mais moins bien référencées, disparaissent sous les grands acteurs du milieu. À moins de les chercher spécifiquement, les trouver devient aussi difficile que chercher une aiguille dans une botte de foin. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle intégrée au moteur de recherche Google, mode IA, trouver une information avec ce moteur de recherche était devenu anxiogène. En cause, notre cerveau gère très difficilement le fait d'être confronté à des milliers de choix. Nous sommes, dit le neuroscientifique Sébastien Boller, angoissés par l'infini des possibilités, car notre cerveau n'a pas été préparé par la sélection naturelle à gérer autant de choix provenant d'une simple petite recherche. Devant ces tonnes d'informations, le cerveau angoisse, car il réalise subitement qu'il faudrait toute une vie pour tout consulter. Aussi, face aux choix qu'impose une diversité trop vaste, dit l'auteur, nous découvrons une angoisse nouvelle, celle de l'indétermination. La pensée des possibilités qui seront non explorées et potentiellement tentantes stimule notre cortex singulaire et y génère une tension psychique. Ces dernières années, un terme générique est apparu dans le champ lexical relié à l'Internet pour expliquer ces désagréments psychologiques des temps modernes. Le FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Cette nouvelle anxiété s'invite dans le corps d'une personne qui craint de se faire rappeler par d'autres internautes qu'elle a raté le rendez-vous avec une expérience, une occasion ou une tendance. Malheureusement, puisqu'on ne peut pas être partout en même temps dans les médias, les chances de voir ses amis publier sur Instagram des photos d'une fête ou d'un spectacle qu'on a manqué font du FOMO une anxiété incontournable dans notre monde hyper connecté. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cortex singulaire d'une personne aux prises avec un tel dilemme, il suffit, recommande Boller, de dîner dans un de ces restaurants vietnamiens dont la carte compte au moins 18 pages. Devant toutes ces possibilités qu'on ne pourra jamais expérimenter, certains clients deviennent très angoissés par la peur de faire le mauvais choix. Pour apaiser son cerveau, il y a toujours dans un groupe une personne qui propose de choisir des plats différents et de jouer collectivement au pique-assiette. C'est sa façon de minimiser le nombre des possibilités qu'elle devra inévitablement laisser en plan. Malgré tout le regard critique que j'ai sur les dérives potentielles de l'IA, Je dois reconnaître que le mode IA, intégré au moteur de recherche Google, nous aide véritablement à amenuiser cette angoisse devant des centaines de milliers de possibilités. Un problème joliment exprimé dans l'expression québécoise « trop, c'est comme pas assez ». Jusqu'à maintenant, le moteur de recherche nous fait un résumé et nous propose une courte liste de possibilités avant de dérouler le menu infini de résultats, ce qui permet de trouver des propositions intéressantes qui, auparavant, n'auraient jamais été assez importantes pour apparaître prioritairement dans notre recherche. Mais la question qui tue est la suivante. Combien de temps durera cette virginité fonctionnelle? Gageons que cette intelligence artificielle sera bientôt corrompue par l'argent. Dans la courte liste que le mode IA de Google nous propose, les plus forts allongeront bientôt de l'argent pour y figurer de façon prioritaire. Ils chercheront aussi à payer pour empêcher les informations compromettantes sur leurs produits d'être mises de l'avant. Autrement dit, il est utopique de penser que les IA, si indépendantes, nous chante-t-on, seront à l'abri de cette forme de dérive capitaliste. Après tout, elles ont été créées pour rapporter des profits à des investisseurs. Or, le capitalisme n'a pas de sentiment quand il y a de l'argent à faire. Si les intelligences artificielles finissent par incorporer tous les défauts de l'humanité, que deviendront-elles exactement? Elles se transformeront en intelligences indissociables du favoritisme, de la corruption, de la mystification et du mensonge opportuniste. L'argent sera pour ces cerveaux artificiels ce que la dopamine est à notre système de récompense. Autrement dit, une fois corrompus et gavés de tous nos péchés capitaux, les IA deviendront plus proches des intelligences naturelles que nous sommes. C'était « La corruptibilité des intelligences artificielles ». Un texte de Boucard Diouf, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse.